Je suis avec Éric Fretel, ancien Alençonnais. Il a étudié l'agronomie et l'environnement au lycée agricole de C. Maintenant réalisateur de plusieurs longs métrages et documentaires comme Vélotopia, Bye Bye Pesticides, Pesticides Mon Amour. Il revient sur nos écrans en mars prochain avec son reportage qui va vous mettre vert de rage. J'ai énormément bossé sur le genou. Reportage intitulé Les gardiens du climat. Il a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Éric.
Salut.
Alors Éric, dans un premier temps, est-ce que je peux te laisser nous présenter ton parcours ?
Eh bien, tu l'as déjà pas mal résumé. Je suis donc un gars qui a étudié la nature, l'écologie et puis l'agronomie. Et par passion, je me suis lancé dans la vidéo. Et puis, je suis un gros militant écolo. Écolo parce que maintenir un écosystème viable, c'est maintenir une société viable, stable. Donc, qu'on trouve un moyen de tous être heureux. Et depuis une douzaine d'années, je fais des documentaires écolo pour sauver la planète, pour sauver l'humanité.
Alors justement, quel a été ton déclic où tu t'es dit « je veux faire des documentaires écologiques » ?
En fait, l'idée, c'est... On a déjà les solutions techniques, matérielles pour sauver la planète et sauver l'humanité. Mais on a un problème culturel. On n'arrive pas à passer, à changer. Et ce qui nous fait changer le plus facilement, je pense, c'est la culture. Et je pense que le média le plus efficace pour influencer, je pense que c'est la vidéo. On voit, la publicité, c'est extrêmement efficace pour changer nos comportements, c'est-à-dire nous faire acheter des choses. Ben, je me suis dit, en faisant des documentaires qui, en quelque sorte, vendent l'écologie, je pense que c'est une arme redoutable pour faire avancer les choses et faire évoluer notre culture.
Tu as réalisé plusieurs documentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Ouais, alors le tout premier documentaire, il s'appelle « Quand la nature reprend le dessus ». Alors lui, il était fait complètement à l'arrache. Je pensais même pas que ça deviendrait mon métier à cette époque-là. Il a bien marché, il a été diffusé à l'ONU, et puis il raconte l'histoire de l'homme qui disparaît de la surface du globe, comment la nature se réapproprie les villes, au bout de combien de temps les villes disparaissent, quoi, et qu'est-ce qui reste au final de l'humanité. Ensuite, un documentaire sur les pesticides en ville, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des documentaires sur les pesticides à usage agricole, alors qu'il y a quand même un gros pourcentage de pesticides utilisés juste pour faire beau, propre. Et cela, c'est assez facile de s'en passer. Donc un documentaire sur ça. Ensuite, un documentaire sur le vélo comme mode de déplacement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Un nouveau documentaire sur les pesticides pour montrer les villes qui ont réussi leur transition, c'est-à-dire à se passer totalement de pesticides. Un documentaire sur le réchauffement climatique en Normandie. Et puis ce nouveau documentaire, Les gardiens du climat, qui montre comment des gens agissent pour lutter contre le réchauffement climatique.
Justement, j'allais te poser la question, de quoi va parler ce documentaire ? Donc ça va être principalement les personnes qui vont mettre en place des solutions ?
Ouais, alors... On a dit, les gars qui font des choses contre le réchauffement climatique, ce sont des super-héros. Ils agissent vraiment pour le bien commun, pour sauver l'humanité, donc c'est des super-héros. Alors, on montre une douzaine de personnes qui font des choses, et en parallèle, on a des sociologues, philosophes, psychologues, même neurologues, qui essaient d'analyser pourquoi il n'y a pas plus de gens comme eux. Pourquoi est-ce qu'en tant que société, on a beau être au bord du précipice, on continue à avancer, on continue à courir vers l'abîme. Et au final... Qu'est-ce que ces gens-là ont de plus ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme eux pour aller dans le bon sens ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour ne pas taper dans le mur ?
Au travers de tout ton travail, de toutes tes réalisations, c'est quoi vraiment le message principal que tu souhaites transmettre ?
Je trouve que c'est démoralisant de se dire... On a tout pour rester heureux longtemps, vivre confortablement. Il faut qu'on joue sur quelques petits paramètres. Par exemple, arrêter d'avoir des sociétés du tout automobile. Une ville, c'est pas fait pour avoir des voitures partout. Il faudrait peut-être des sociétés du vélo, des villes où on consomme moins. Et c'est pas pour se priver, mais c'est pour maintenir un mode de vie confortable plus longtemps. Donc moi, mon boulot, c'est d'essayer de dire... Comment est-ce qu'on peut être heureux autrement sans baser notre vie sur le consumérisme ? En se disant, c'est pas parce qu'on consomme qu'on est heureux. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour continuer à avoir une vie confortable, à être heureux et sans dilapider les ressources ?
Est-ce que tu as l'ambition au travers de tes documentaires de faire bouger les choses ? Est-ce que tu penses que ça va... Voilà, ça va faire un déclic chez certaines personnes.
Oh yeah, baby, c'est vraiment le but. Moi, ce que je voudrais, c'est quand les gens ils sortent de la salle de cinéma, qu'ils aient envie d'agir. C'est pour ça que je pense que sur un film, le fond est important, mais la forme encore plus, parce que c'est ça qui va donner le sourire, qui va donner une espèce d'impulsion, une envie d'agir. Je préfère avoir moins de fond et plus de forme. Le but, c'est que vraiment les gens, en sortant de la salle de cinéma, ils se disent « qu'est-ce que je peux faire ?» et puis qu'ils vraiment ils passent à l'action. C'est ça le but du jeu.
Alors, tu parles des gens qui vont aller voir ton film, enfin ton documentaire, ça va s'adresser à quel public ?
Alors, un public le plus large possible. J'ai travaillé avec un dessinateur de comics, il y a des effets spéciaux, il y a la voix off. La voix off, c'est la voix française de Stallone. On a fait vraiment ça bien grand. Je veux surtout pas que ça soit un documentaire élitiste qui s'adresse à des gens qui sont déjà concernés par l'écologie, qui savent déjà ce qu'il faut faire, mais plutôt que ça touche un public le plus large possible. Je dois même t'avouer que si je pouvais faire un documentaire avec... un joueur de foot ou avec Nabila, mais je serais super content de pouvoir élargir le public. Donc Les Gardiens du Climat, ben, c'est un documentaire qui s'adresse vraiment à tout le monde. Je pense que même si on n'est pas concerné par l'écologie, on peut venir le voir parce qu'on trouve que c'est cool les super-héros.
Et t'as pris combien de temps pour réaliser, pour écrire, faire le montage, etc. des Gardiens du Climat ?
Eh bien, tout ce travail-là, ça s'est étalé sur 2 ans. Écriture, préparation des tournages, tournage, montage, et puis ensuite étalonnage, mixage, son, etc. Conception de l'affiche et préparer tout ce qui va nous servir à communiquer sur le film. Ouais, 2 ans, à peu près 2 ans, ouais.
Alors, en attendant la sortie du documentaire, quels sont pour toi les gestes écologiques accessibles à tous qu'on pourrait mettre en place quotidiennement ?
Alors, le premier truc, réduire notre consommation de viande. Ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de ça. Pour moi, c'était surtout le vélo. Le vélo, c'était le truc qui sauve l'humanité. Mais la viande, c'est encore plus important. Parce que quand on mange une calorie viande, l'animal, si c'est de la viande de vache, il faut qu'elle ait mangé 7 calories végétales. Donc ça veut dire qu'il faut de l'espace. Ça veut dire qu'on a des prairies, qu'on a des champs, et que quand on met ces champs-là en culture, on a défriché de la forêt. Et entre une parcelle de forêt et une parcelle d'herbe, de prairie, la captation de carbone, elle est sans commune mesure. Donc moins on mange de viande, plus on libère des espaces naturels, plus on capte de carbone. On dit que par exemple, un steak de burger, ça correspond pour le fabriquer à 35 km en voiture. C'est-à-dire que quand on mange un steak de burger, c'est comme si on avait roulé 35 km. Et je me disais, ben, moi qui me déplace tout le temps en vélo, je suis content de faire cet effort-là. Ben, si je vais chez un copain, je fais 5 km aller, 5 km retour, et que j'ai mangé un burger chez le copain, ben, j'ai tout faux, j'aurais mieux fait d'y aller en voiture et puis de manger une salade. Donc vraiment réduire notre consommation de viande, parce que ça fait pas si longtemps que ça hein, qu'on consomme de la viande presque quotidiennement. Il y a 50 ans, il y a 3/4 de siècle, on mangeait pas de la viande tous les jours, c'était pas comme ça. Donc on rogne pas spécialement sur notre qualité de vie, par contre l'impact est énorme. Donc la viande, je dirais le vélo ensuite, et puis partout où on peut planter de la verdure. À chaque fois qu'on a de la biodiversité, qu'on a des arbres, on capte du carbone. Et puis surtout, consommer moins. Arrêter de baser notre bonheur sur le pouvoir d'achat, sur notre niveau de consommation. Arrêter d'acheter des conneries, quoi. On dit que à la fin du 19e siècle, la maison d'un Français moyen contenait 400 objets. Tu sais combien aujourd'hui une maison d'un Français moyen, une famille de Français moyens contient d'objets ? T'as une idée à peu près ?
Pas du tout.
10 000. Est-ce que ça nous est vraiment utile d'avoir 10 000 objets ? Enfin, je crois qu'à nous, non, mais à l'industrie, certainement.
C'est vrai qu'il y a plusieurs foyers, on va avoir plusieurs télés ou des choses comme ça, donc je comprends. Concernant, tu parlais de la viande tout à l'heure, c'est quoi l'objectif ? Ce serait de passer sur un régime alimentaire de flexitarien ? Ou vraiment de la radier complètement ?
Alors, en fait, je sais pas trop, je connais pas tous les noms exactement. On est quand même des carnivores, hein, on est des canines. Ça serait juste, allez, si on pouvait manger de la viande et des produits carnés... moitié moins que ce qu'on fait aujourd'hui, ou 3/4 moins. Et on s'aperçoit qu'en plus, il y a vraiment des tas de choses qu'on peut manger qui sont très très bonnes. Moi, je suis un fan de barbecue, je suis un fan de burger, de foie gras, j'ai un peu honte. Mais on arrive à réduire sans réduire notre bonheur et notre plaisir, quoi. Je peux te donner un exemple concret, c'est pas par rapport à la viande, mais c'est par rapport à la voiture. Quand je vais faire des courses, j'y vais à pied ou en vélo, il y a 1,5 km. Et avec le confinement, là, je roule tellement peu en voiture que je me force à la prendre tous les mois et demi pour qu'elle roule quand même. Et du coup, j'ai pas envie de la prendre juste pour faire des tours gratuits, donc tous les mois et demi, je prends la voiture pour aller faire les courses. Et moi, je ressens le plaisir d'avoir la voiture quand je fais les courses parce que j'ai pas toutes ces affaires-là à porter. Alors que quelqu'un qui prend sa voiture toutes les semaines pour faire les courses, pour lui, ça lui semble juste normal. Moi, ça me procure du plaisir. Et pour la moyenne des gens, c'est juste normal. Donc, on arrive à être heureux en faisant des choses simples.
Est-ce que tu penses qu'il est important d'inculquer des valeurs écologiques à la future génération qui arrive et qui sont des acteurs importants de notre avenir climatique ?
Alors ce qui me rassure, c'est que la jeunesse, moins de 25 ans, est déjà bien sensibilisée. Ça avance. J'ai pas envie de parler des générations futures. C'est maintenant qu'il faut agir. Parce que si on n'agit pas maintenant, bah les générations futures, ça va être Mad Max. Il va falloir leur apprendre à s'occuper de leur potager et puis à tirer à l'arc. Hein, parce que... Moi, je suis catastrophiste, mais enfin, on dirait que je suis catastrophiste, je suis juste réaliste. On s'aperçoit que, par exemple, le prix de l'énergie coûte vachement plus cher maintenant. On est surpris que le prix de l'essence coûte plus cher. Bon, c'est étonnant. Même les pétroliers, maintenant, ils disent que d'ici 2030, on va augmenter le prix de l'essence de 25%. Ben oui, on est en train de surconsommer. Les ressources se tarissent et on fait semblant de s'en étonner. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, tout le monde.
C'est une question qui fait un petit peu débat. Personne n'est jamais d'accord à ce sujet-là et je voulais avoir ton avis. Est-ce que pour toi, oui ou non, il est trop tard pour sauver la planète ?
Je vais te parler franchement, on est mal. On est très très mal. Mais dans le doute, je préfère agir. Parce que c'est sûr, si on fait rien, là c'est sûr, c'est mort. Et quand on agit, au moins, on recule l'échéance. C'est toujours ça de pris. Donc en agissant, on fait quelque chose de positif de toute façon. Mais c'est vrai, je suis très 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 pessimiste sur notre avenir. Il faut regarder les choses en face. On a notre cerveau qui est quand même fait pour consommer et surconsommer. Et ça va être très difficile de changer toutes ces habitudes qu'on a prises.
Qu'est-ce que tu penses du terme écolo-bobo ?
Oh bah ça doit être moi ça, hein. Je suis un peu écolo-bobo. Mais peut-être le terme écolo-bobo, c'est fait pour dénigrer. C'est fait, par exemple, tu vois, quand Greta Thunberg a dit « Bon, le réchauffement climatique, le réchauffement climatique !» Au lieu de dire « Ah oui, ça craint le réchauffement climatique », ou alors au lieu de dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries le réchauffement climatique », parce qu'on serait ridicule de dire « Le réchauffement climatique, c'est pas vrai ». Mais non, il y a toutes les sources, toutes les preuves scientifiques. Et ben on va traiter Greta Thunberg d'écolo-bobo. Donc, plutôt que de s'attaquer à l'écologie qui est finalement une science avec des faits, avec du concret, on s'attaque aux gens qui vont défendre l'écologie, on s'attaque à cette idée-là. Donc, l'idée de écolo-bobo, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour détourner l'attention de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire agir vraiment, franchement, pour préserver le climat.
Il y a les élections présidentielles qui arrivent. On va pas parler forcément opinion politique, mais il y a le parti des écologistes qui est souvent aux élections présidentielles qui fait des petits scores. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que tu penses que l'écologie pourrait pas, enfin le parti écologique pourrait pas avoir le pouvoir de la France ? Ou que c'est parce que c'est pas assez bien représenté ou... Qu'est-ce qui explique ce chiffre bas ?
Qu'est-ce qui bloque ? Alors peut-être on n'a pas assez peur, on se rend pas compte. Et du coup, on va se diriger vers des gens qui parlent de pouvoir d'achat. Donc moi déjà, un candidat qui va me parler d'écologie, qui va dire il faut augmenter le pouvoir d'achat, bah, pour moi c'est pas compatible, c'est pas possible. On peut pas continuer à consommer, surconsommer et augmenter notre surconsommation et parler d'écologie derrière. Parce que ça fait pas rêver. Si on veut vraiment faire un programme écolo, il faut qu'on change nos habitudes et on s'est habitué à un certain confort, donc il faut recoloniser l'imaginaire, notre façon de fonctionner en tant qu'individu ou en tant que société, donc c'est beaucoup de boulot. Et puis il faut je ne serai pas le président du pouvoir d'achat. Et ça c'est très difficile. Puis peut-être aussi que chez les Verts, on a une agglomération de gens qui sont contre. Des gens qui sont contre les OGM, contre les pesticides, contre le nucléaire, contre le réchauffement climatique. Et peut-être que c'est difficile de fédérer des gens qui sont contre, alors qu'il faudrait fédérer des gens qui sont pour quelque chose. Pour quel mode de vie on est, pour quel, comment on doit s'organiser, c'est quoi les idées qu'on a en commun et qu'on va mettre en place ensemble. Je suis pas politologue, hein, c'est ce que je viens de raconter, c'est mon ressenti, mais c'est pas forcément la réalité.
On est en pleine pandémie mondiale, on touche la fin, j'espère, je croise les doigts. Est-ce que pour toi, la crise sanitaire a eu un impact sur notre écologie ?
Bah ouais, parce que clairement, on est moins sortis, on a moins consommé. Moi, je suis... je vais peut-être être le grand méchant, mais moi je suis très content qu'il y ait des pénuries, qu'on arrête de faire venir des choses qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on arrête de surconsommer. Ça a eu un impact énorme, surtout le premier confinement, le vrai confinement mondial à la dure. Là, on a vu que l'impact était énorme, puis que finalement on arrivait à s'en sortir quand même, à être heureux. Et on a vu à quel point la nature pouvait, elle avait de la résilience, c'est-à-dire qu'elle était capable de se réapproprier l'espace une fois que l'homme arrête de tout perturber. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis pro-Covid ? Peut-être, quelque part.
C'est vrai qu'on a vu des, je sais pas si tu as vu l'info, mais on avait vu des cerfs dans les rues de, dans la rue du centre-ville de Caen.
Ouais, c'est incroyable.
En plein confinement, c'était assez incroyable.
Mais ça veut dire que on est trop présent, on agit trop, on fait trop de bruit, on gigote trop dans tous les sens, on a une espèce de frénésie d'activité, alors que finalement notre rôle sur Terre, c'est peut-être juste être des, on devrait plus être des contemplatifs plutôt que de gigoter dans tous les sens, et puis que en contemplant sagement, calmement, on n'est pas forcément moins heureux.
Où est-ce qu'on peut retrouver tes anciens reportages que tu as réalisés ? Est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut les visionner ?
Simplement, on tape Eric Frotel dans les réseaux sociaux, on voit les affiches de tous les films à droite à gauche. Les Gardiens du Climat, il est sur www.lesgardiensduclimat.fr. On retrouve toutes les dates, et puis il y a aussi un petit onglet pour nous laisser des messages, parce qu'on compte sur tout le monde pour organiser des projections à droite à gauche. On va avoir une première série de projections dans les cinémas, et puis ensuite on ouvrira plus largement aux associations. Et alors surtout, voilà, le gros truc, c'est qu'on aura une projection gratuite au Planète Ciné d'Alençon le jeudi 24 février. C'est gratuit, venez voir un film de super-héros, je voudrais blinder la grosse salle de 350 places. Sans déconner, c'est fun, c'est gratuit, il faut venir.
On est sur un documentaire qui va durer combien de temps à peu près ?
Il dure 1h27. Il y a des effets spéciaux, c'est drôle, il y a de la baston. Vraiment, il faut venir.
Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou un site internet ? Mon site internet, tu nous l'as donné tout à l'heure, mais où on peut te retrouver et te suivre ?
Oui, il y a la page Facebook Les Gardiens du Climat, où on peut retrouver tout plein d'informations. Et puis autrement, ouais, sur Google, on retrouve plein de choses aussi.
Alors, tu parlais de la sortie du documentaire à Planète Ciné. Si, j'appelle ça la question entretien d'embauche et je clôture toujours mes interviews là-dessus. Si tu devais convaincre nos auditeurs d'aller venir voir ton reportage, ton documentaire, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je leur dirais qu'ils vont passer un bon moment. Ça va être, faut pas imaginer le documentaire comme quelque chose de pesant, de moraliste. C'est surtout pas ça. Quand on va voir Les Gardiens du Climat, on va se marrer, on va ressortir super boosté et on va avoir passé un bon moment. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce film.
Merci Eric.
Salut.
Et voilà, c'était l'interview d'Eric qui, je le rappelle, va sortir son film à Planète Ciné le 24 février à 20h, le jeudi 24 février à 20h. Et je tenais à vous rappeler que la séance ne sera pas gratuite. On a eu l'information tout à l'heure et on s'en excuse bien sûr.